Et sans plus attendre, je vais inviter Monsieur François Tessay à me rejoindre à la tribune. Et je vais inviter tout de suite également Olivier Leroy et Jérôme Diguet. Comme ça, on a tout le monde ici. Pour notre temps de témoignage pendant une heure, on laissera du temps aux discussions aussi, hein, aux échanges, ne vous inquiétez pas. Non, c'est bon le temps. Venez là, vous installez. Quand même. La télécommande à Zoé. Alors. Donc, on va passer à cette phase de témoignage. Alors, pour... un premier projet sur la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, dont on connaît un peu plus de choses parce qu'il est en route depuis un petit moment, on a des éléments, voilà, et donc ça, on va préciser où on en est et surtout quels sont les liens avec notre thématique du jour sur la muséographie, comment on parle de la vigne et du vin. Et on se passera après à la Cité des vins et des climats de Bourgogne. Monsieur François Tessay, qui est adjoint au maire de Dijon, qui est également vice-président de la métropole, et dans ses fonctions a notamment le suivi, l'accompagnement, ou je sais pas, l'encadrement de l'ensemble de ce vaste projet de Cité internationale de la gastronomie et du vin. Voilà, donc vous allez nous en faire une présentation, avec si possible les liens aussi sur cette thématique de la vigne et du vin. Voilà, je rappelle le nom, Cité internationale de la gastronomie et du vin. Nous vous écoutons.
Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous parler de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, et pour commencer je vais vous expliquer la genèse et les origines de notre projet. Ainsi, vous pourrez comprendre à la fois la différence, mais surtout la complémentarité entre notre Cité internationale de la gastronomie et du vin et le réseau des cités des vins et des climats de Bourgogne. Je pense à vos trois sites prestigieux, Chablis, Mâcon et bien entendu Beaune. Tout démarre le 16 novembre 2010, jour où l'UNESCO a inscrit le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors le repas gastronomique, j'aime à le dire, ce n'est pas le repas 3 étoiles Michelin, c'est plutôt cette particularité française qui était reconnue de rester à table, de partager un bon repas. Je pense au repas du dimanche, repas de baptême, mariage, communion, repas d'affaires, repas de Noël, Nouvel An. Enfin, cette capacité des Français à rester longtemps à table, de partager des moments. Ce moment de convivialité, c'est une pratique sociale qui réunit un groupe pour marquer de façon festive les moments importants de la vie des individus et des groupes, comme ça a été décrit par l'État français. Donc c'est l'art de bien manger et de bien boire ensemble. Avouez que c'est plutôt sympathique comme thématique à défendre, et c'est un véritable moment de convivialité et de partage qui renforce le lien social. Donc le 16 novembre 2010, vous avez donc l'inscription du repas gastronomique des Français. De 2012 à 2013, la mission française du patrimoine des cultures alimentaires, la MFPCA, dirigée par Jean-Robert Pitt et comme directeur Pierre Saner, missionnée par l'État français, a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Nous pensions qu'une ville allait être retenue, mais finalement, quatre villes ont été retenues. La ville de Tours, avec l'Institut Rabelais, qui a beaucoup travaillé sur l'inscription du patrimoine, au patrimoine mondial du repas gastronomique, qui a eu donc une thématique spécifique, parce que les quatre villes, Tours, Paris, Rungis, Lyon et Dijon, ont eu chacune une thématique spécifique. La ville de Tours, donc, c'est l'histoire du repas à travers les siècles, ce moment social, sociétal. La ville de Lyon, qui a inauguré, d'ailleurs j'étais à son inauguration mardi, c'est le repas gastronomique autour de la santé et du bien-être. Paris Rungis, qui ouvrira en 2024, c'est avec le marché international, le plus gros marché alimentaire du monde, à côté ouvrira autour de comment nourrir la planète dans les siècles qui arrivent. Et enfin, Dijon, on a eu le côté sympathique, c'est le repas gastronomique autour du vin. La thématique, donc la valorisation et la promotion de la vigne et du vin, reconnaissant ainsi l'importance du passé viticole bourguignon, mais aussi la présence à Dijon de la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin, il y avait Jocelyne Perrard juste avant, et de l'Institut Jules Guyot, notamment l'Institut de la Vigne Jules Guyot. Au départ du projet, comme je l'ai déjà dit, nous pensions être seuls, une cité, et finalement nous sommes quatre dans un réseau qui fonctionne bien. Au début, on était tous un peu craintifs, et on se marquait un peu à la culotte, et maintenant finalement on se rend compte qu'on a tous intérêt à travailler ensemble, et on travaille très bien ensemble avec les quatre villes. C'est vrai que Paris est un peu plus problématique parce qu'ils attendent encore, c'est une grosse structure qui va se monter, mais en tout cas c'est vrai que nous travaillons tous bien ensemble et nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble régulièrement sous l'autorité de la mission française du patrimoine des cultures alimentaires, et on a vraiment tous compris qu'on avait tous à y gagner. Donc tant mieux si un maximum de touristes viennent à Paris, puis après s'ils peuvent venir à Dijon en passant par Chablis, puis après de Dijon s'ils vont jusqu'à Lyon en s'arrêtant à Beaune et Mâcon, bah, tant mieux. On a vraiment tous à y gagner. C'est ça l'intérêt de ce réseau. Un dossier comme celui-là, c'est long, très long, surtout quand en plus on a des conseillers municipaux qui font de la politique et puis qui font 3 recours et 3 appels, ça nous fait perdre de 2 ans de l'argent et 2 ans de retard. Nous aurions dû ouvrir normalement comme Lyon cette fin d'année. Eh bien, nous ouvrirons, on en reparlera, octobre 2021, décembre 2021, à quelques mois près, enfin 2 mois près, on espère octobre. Le 2 février 2016, lancement officiel de la cité. Le 21 mars, présentation des acteurs économiques, culturels de la cité en présence du président de la République. Alors, ce projet a la particularité d'avoir 3 présidents. C'est Nicolas Sarkozy qui a lancé le repas gastronomique, François Hollande qui a entraîné, qui nous a bien aidés, et Emmanuel Macron qui nous pousse aussi beaucoup là-dessus. Le 26 juin, création de l'association de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, donc CIGV, ça ira plus vite, hein, qui va gérer l'espace culturel de la CIGV. Le 18 septembre, ça on y tenait beaucoup, constitution du comité d'orientation stratégique, le COS, qui est la structure de contrôle de la bonne exécution des directives de la MFPCA, avec notamment Jocelyne Perrard comme coprésidente. Nous sommes déjà réunis 3 fois, et il y a un COS réduit qui travaille énormément toute l'année. Le 4 juillet, pose de la première pierre. Le 4 juillet, c'était symbolique hein, pour nous. C'était le jour anniversaire, le 3e de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste des paysages culturels des climats de Bourgogne. Pour résumer, le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin est un projet culturel, scientifique, touristique et économique. Donc on a repris un extrait du dossier d'inscription auprès de l'UNESCO. C'est la création d'un équipement culturel pluridisciplinaire à dimension nationale et internationale qui contribuera à sensibiliser le public à l'histoire, aux fonctions et valeurs du repas, ainsi qu'à la vitalité de ces expérimentations en France et dans le monde. Cet équipement culturel pourrait être un espace vivant, favorisant par des activités pédagogiques, artistiques et documentaires une meilleure connaissance de la pratique culturelle et sociale du repas gastronomique des Français, de ses rites et plus largement des traditions des communautés partout dans le monde. Donc à Dijon, nous n'avions pas d'inscription à l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, et en 2 ans, on en a récupéré 2. Donc le repas gastronomique à promouvoir avec d'autres, et le 4 juillet 2015, l'inscription des climats de vignobles de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les images, vous me direz, on voit le palais des Ducs, la mairie de Dijon et le musée des Beaux-Arts. Il faut savoir que notre palais, il y a 2 parties, une partie municipale et une partie musée. Ben pourquoi ? Parce que justement, le secteur patrimonial remarquable de Dijon, son secteur sauvegardé de près de 100 hectares, le 2e de France, est inscrit dans le périmètre du paysage culturel des climats. Cette cité internationale de la gastronomie et du vin va permettre la valorisation du repas gastronomique des Français, mais va devenir l'une des structures destinées à présenter au public la valeur universelle exceptionnelle des climats, la VIE en complémentarité bien sûr des 3 autres équipements et d'autres donc des vins de Bourgogne. Dans notre patrimoine gastronomique et viticole, sera valorisé à Dijon, et ceci dans un site à haute valeur patrimoniale, C'est important pour nous, c'est sur le site de l'ancien hôpital général. Pour ceux qui connaissent Dijon, c'est un vieux bâtiment qui a 8 siècles d'histoire et qui a été vidé de ses derniers patients il n'y a pas très longtemps, en 2015. Alors c'est vrai que dans beaucoup de villes en France, quand il y a un hôpital de cette taille-là qui ferme, souvent ça devient une friche pendant quelques années. Et nous, finalement, très rapidement, on a embrayé sur un projet au cœur de ville. Donc la ville de Dijon, au contraire, a fait le choix de rendre cet exceptionnel site de 6 hectares et demi, c'est pas anodin, 6 hectares et demi, à ses habitants, tout en faisant un élément majeur de l'attractivité du territoire. Ce site bénéficie en effet d'une situation exceptionnelle, car nous sommes à la lisière du cœur historique, je vous parlais du secteur sauvegardé de 100 hectares, nous sommes vraiment à 20 mètres, au kilomètre premier de la route des Grands Crus, à proximité immédiate de la gare SNCF, qui garantit son accessibilité, en passant par le Jardin des Sciences, avec un parcours en pélographie que nous allons mettre en place, et en connexion avec un pôle d'échange multimodal, tram, bus, et un parc de stationnement que nous venons de créer de 450 places. Sur ce site, 8 siècles d'histoire nous contemplent, avec une première occupation au début du XIIIe siècle, en 1204 exactement, fondation de l'hôpital du Saint-Esprit, avec bien sûr des transformations au fil du temps. En 1459, l'édification de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, que vous voyez là-haut en haut à droite, cette chapelle qui reste propriété de la ville et que nous sommes en train de restaurer complètement, à la fois extérieurement et bien sûr toutes les œuvres à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure des siècles, il y a eu une constante évolution de nouveaux embellissements et d'extensions. La Cité internationale de la gastronomie, c'est un projet multifonction, donc qui s'affirme comme un assemblage d'offres multiples. Vous pouvez voir en partie numéro 1, le pôle culture et formation, on y reviendra après. En partie 2, c'est l'espace commerce. En partie 3, c'est l'hôtel Curio by Hilton, un hôtel 4 étoiles plus, d'une centaine de chambres avec un agrandissement et un spa autour du vin. Dans la partie 4, c'est l'espace formation-innovation, notamment le village Baïséa, la food tech, notre pôle de compétitivité Vitagora, qui vient sur place. Dans la partie 5, nous avons un cinéma, deux cinémas plus exactement, un cinéma d'art et d'essai. Il y en a déjà un à Dijon, il va ouvrir 4 salles supplémentaires, avec cette particularité qui est un peu unique en France pour l'instant, en tout cas il y a 2 ans c'était unique, c'est d'avoir un cinéma multiplex à côté. À Dijon, un cinéma a fermé et transfère son activité sur place avec 9 salles. Donc 4 salles pour d'art et d'essai et 9 pour le multiplex, sachant que le multiplex, la salle principale, servira de salle de conférence la journée. Et on espère aussi récupérer le festival du vin, enfin des documentaires autour du vin avec Jean-Robert Pitt de la MFPCA. Nous travaillons beaucoup là-dessus. Il y a une possibilité très intéressante. Le tout, j'ai oublié le 6, ce sont des logements réhabilités haut de gamme dans le secteur historique, la partie historique et patrimoniale. Et le 7, c'est un écoquartier qui se crée. Et pour l'anecdote, dans la partie boisée, ça s'appellera l'allée Bernard Loiseau. Nous tenions vraiment à rendre hommage à Bernard Loiseau, qui est une personnalité reconnue du monde de la gastronomie. Toute cette surface, ça rentre au sein d'un secteur, une zone touristique instituée par arrêté en septembre 2018, zone touristique qui permet une ouverture 7 jours sur 7 des commerces et de la structure. Sur ces images, donc vous voyez, on voit le parking, je vous disais, là, en haut à gauche, on le voit, de 450 places. Vous voyez la partie à la fois moderne et patrimoine. Et quand on parle aux grands chefs de cuisine, ils nous disent tous que la cuisine a aussi cette particularité d'avoir une modernité et un côté historique patrimonial. Et donc, on retrouve cela. Et les architectes, donc Antoine Béchu, associé à l'architecte en chef des monuments historiques Alain-Charles Perrault, ont décidé de faire une construction qui associe à la fois la modernité et de le respect, bien sûr, des monuments historiques. L'hôtel, vous le voyez, il restera dans la partie historique avec une partie moderne juste à côté. La cour Sainte-Croix de Jérusalem, donc là vous voyez la fameuse petite chapelle que nous avons gardée et qui sera visitable toute l'année. En dessous, le village Baïséa qui est une partie donc moderne, construite. Et les commerces, là, ça sera dans une partie également plus moderne. L'espace formation, c'est le fameux canon de lumière. Il faut savoir qu'il y a la ligne de chemin de fer juste à côté. Et de l'autre côté de la ligne, c'est le secteur sauvegardé. Vous voyez, quand je disais, on est vraiment juste à côté. Donc, c'est important pour nous de respecter à la fois le patrimoine, mais d'avoir une dose de modernité. On le voit un peu mieux encore sur ces images. Donc, vous avez l'espace, l'entrée de la cité se situera entre l'espace de formation et l'espace d'exposition. Le SIAP, alors c'est quoi un SIAP ? C'est un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Ça n'a rien à voir avec l'UNESCO, là. C'est un rapport avec le label Ville d'art et d'histoire que nous avons obtenu en 2008. Et au sein de ce SIAP, il y aura donc une reproduction, on va refaire vivre Dijon au fur et à mesure, ceci déjà 8 siècles, et aussi Dijon. Et il y a eu des fouilles. Et juste à l'endroit de l'espace formation, en dessous, on a retrouvé les traces d'une auberge du Moyen-Âge. Vous voyez, c'est quand même symbolique, on ne le savait pas, mais en fouillant, on a retrouvé, et les Dijonais se sont... Il y a eu 5000 personnes qui sont venues une journée voir ce qui se passait, parce qu'ils voulaient se réapproprier l'histoire de leur site. Et c'est important pour nous, sachant que c'est un site qui est vraiment très important pour les Dijonais, parce que c'était l'hôpital de Dijon. Beaucoup de familles ont eu les naissances de leurs enfants là, beaucoup de malheurs, de bonheur aussi. Enfin, tout le monde, beaucoup de personnes sont passées au sein de cet hôpital. Là, vous voyez à droite, à gauche, l'extension de l'hôpital, l'extension de l'hôtel qui donc sera avec le spa. Et enfin, la chapelle, c'était la chapelle des malades. Chapelle des malades qui a perdu son caractère sacré le jour où les patients ont arrêté d'être sur place, parce que la sacralisation d'une chapelle d'hôpital s'arrête le jour où, parce qu'il y a eu des soucis, les gens ne voulaient pas, etc. Donc on a eu quelques soucis finalement, les textes ont montré qu'on pouvait le faire. Et donc à l'intérieur de cette chapelle, on en reparlera, on l'appelle la chapelle des climats, et on pourra découvrir les vins de Bourgogne et les fameux climats de Bourgogne. Au tout début, bien sûr, avant de venir à Beaune voir la suite. Au sein de la cité, donc, on trouvera un parcours d'exposition permanente de 1300 m² qui se déclinera en trois volets complémentaires. Donc chacun d'entre eux permettra d'explorer la culture viticole et le vin, notamment à travers la thématique de l'accord mets-vins, qui est l'un des critères caractéristiques du repas gastronomique des Français. Régis Marcon, vous connaissez tous certainement, qui est... Nous avons Éric Prat. Éric Prat, c'est notre chef triple étoilé, qui est à côté d'ici, à Chagny, la Meloise, qui est notre chef responsable, qui s'occupe de tout, qui verrouille tout, qui respecte bien les circuits courts, la provenance des produits, etc. C'est quelqu'un, une sommité là-dedans, il est très... impliqué. Eh bien, Régis Marcon, c'est le même à Lyon, il a fait la même chose, et c'est vrai, il disait quel dommage, j'aurais bien aimé avoir cette thématique du repas gastronomique autour du vin, parce que lui, il a le repas gastronomique autour de la santé, du bien-être, c'est un peu moins glamour, bon, ça se fait quand même, j'étais voir, c'est superbe, allez-y, et le bâtiment est magnifique. Donc, nous aurons une exposition qui s'appellera la première à table, les accords fromage et vin, ou la place du vin dans le repas des gastronomiques à la française, donc dans cette exposition à table. Dans cette deuxième partie d'exposition, ça sera en cuisine, où les participants choisiront le vin le plus approprié au plat qu'ils auront virtuellement préparé sur des pianos de cuisine. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, dans l'ancienne chapelle, baptisée Chapelle des Climats, qui va être magnifique, elle est déjà belle, mais alors rénovée, elle va être superbe. On pourra découvrir les climats, les expliquer, les décrire, mais aussi mettre en lumière la place des vins de Bourgogne dans la tradition gastronomique régionale. Il y aura aussi des expositions temporaires au sein de cette cité, et l'exposition inaugurale sera dédiée à la pâtisserie française, et on a eu son accord, nous sommes très heureux d'avoir le haut patronage du chef pâtissier et chocolatier Pierre Hermé, désigné meilleur pâtissier du monde en 2016 et surnommé le roi du macaron. Vous connaissez certainement tous, et donc il viendra participer à l'inauguration de cette exposition temporaire. Au sein de la cité, nous sommes très heureux, on aura une formation, la formation aussi, avec, et qui aura une place prépondérante. Et c'est important, ça fait partie des missions centrales des cités de la gastronomie, l'éducation et la formation. Et celle-ci sera assurée sous différentes formes, déjà par l'école des vins du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le BIVB, dans un espace de 70 m², qui sera ouvert en permanence au public, au cœur du hall d'entrée de la cité. afin de proposer des ateliers thématiques diversifiés permettant à tous de s'initier à la dégustation du vin, à la découverte des vins de Bourgogne, leur arôme, leur cépage, la typicité des terroirs, expliquer les climats aussi. Donc ça, nous sommes très heureux d'avoir le BIVB présent sur place. Et d'ailleurs, le BIVB est représenté au sein du comité d'orientation scientifique et il tient une place prépondérante. Deuxième fierté, l'école Ferrandi. Alors l'école Ferrandi, vous connaissez certainement, on va dire qu'il y a des grandes écoles prestigieuses de gastronomie dans le monde. Vous avez Bocuse, vous avez Lausanne. Mais Ferrandi, on l'appelle le Harvard de la gastronomie. Et Ferrandi a accepté de venir ouvrir une antenne à Dijon, au sein de la cité, et afin de proposer des cycles semestriels de formation intensive à la cuisine et à la pâtisserie. Alors ça sera en langue anglaise. Chaque année, 110 étudiants internationaux s'initieront à la gastronomie française, mais aussi aux produits et aux savoir-faire gastronomiques régionaux. Ils auront aussi un partenariat avec le BIVB, parce qu'il faudra aussi que ces étudiants connaissent le vin, apprennent le vin de Bourgogne, et donc avec le BIVB, il y aura un partenariat Ferrandi-BIVB pour travailler là-dessus. Et ça, j'en suis fier, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, ils s'adressent aux professionnels, à des gens qui vont devenir professionnels, mais monsieur, madame, tout le monde, je suis sollicité sans arrêt. Ils veulent aussi, ils auraient aimé avoir un cours de Ferrandi. Le croissant, by Ferrandi, travailler un plat, by Ferrandi. Et donc, il y aura possibilité, le soir, après la fermeture, à 18h30, et le samedi, toute la journée, il y aura des cours pour monsieur, madame, tout le monde. Il y aura des cadeaux, vous pourrez payer une formation de 3 heures, 4 heures, et ça, c'est vraiment important. Et vous ressortirez avec un savoir-faire Ferrandi, peut-être un petit diplôme aussi. En tout cas, ça, Ferrandi a donné son accord, ils ne l'ont jamais fait, et ils le feront pour la première fois à Dijon, et nous en sommes tous très fiers. Ferrandi sera dans donc, ce fameux tunnel de lumière qui sera là, donc avec un espace cuisine, un espace pâtisserie sur deux étages différents. L'implantation également d'un atelier de démonstration et de dégustation sera ouvert dans le hall. Nous travaillons fortement là-dessus avec Zoé Blumenfeld afin d'offrir une approche pratique. C'est vraiment une demande des gens, une approche sensible et sensorielle. On imagine très bien, vous avez un piano de cuisine dans le hall avec un chef et avec un micro qui pourra parler avec une centaine de personnes devant lui travaillant. Et puis, on pourra déguster après. Il y aura un écran géant qui permettra pour les gens qui ne pourront pas accéder directement en premier rang. En tout cas, il y a vraiment un travail là-dessus. On pourra même imaginer, et ça, c'est, on va travailler là-dessus, des battles entre chefs à distance. Tout est possible. Il y a vraiment, on va essayer de le rendre le plus vivant possible. On ne veut pas amuser. Le but, c'est de rendre l'expérimentation la plus facile possible. Nous avons aussi, donc, on a parlé de la formation, mais il y a aussi l'innovation. Au sein de cette cité, c'est important, il y aura l'innovation avec l'installation de la food tech. On le voit dans la partie là-haut, je vous l'ai montré tout à l'heure, dont l'objet est de favoriser le développement de start-up sur des programmes innovants dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'agroalimentaire et de la gastronomie. Sans oublier, bien sûr, notre pôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, de compétitivité Vitagora, dont le thème est de la fourche à la fourchette. Au sein de ces cités, de cette cité, pardon, il y aura aussi des commerces, bien sûr, tous portés autour des métiers de bouche. Il n'y aura pas de magasin de vêtements ou quoi que ce soit, c'est vraiment hyper strict là-dessus. C'est inscrit dans le cahier des charges. Travailler avec le COS notamment, il y a une association syndicale libre qui a été votée au conseil municipal de lundi, dont je serai le représentant de la ville. Donc on va travailler fortement là-dessus. Et avec des gens comme Jocelyne Perrard, des personnes comme Jocelyne Perrard et Aipra, nous sommes certains d'arriver à notre finalité. Donc présence de 5 lieux de restauration, de gamme complémentaire, une vingtaine de commerces. À titre d'exemple, la librairie gourmande. La librairie gourmande, c'est une librairie qui est installée près de Montmartre à Paris, qui est la référence dans le domaine de la littérature gastronomique et œnologique. Beaucoup de chefs vont chercher leurs livres là-bas. Eh bien, la librairie gourmande va ouvrir une annexe à Dijon. Ferrandi le fait, la librairie gourmande le fait. Nous en sommes également très heureux. Il y aura également le développement de pop-up stores. Alors ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est bien fait comme tout. Ce sont des étals dans lesquels vous pourrez, les petits producteurs pourront venir poser une journée, deux jours. Il y aura du personnel pour s'en occuper. Donc, ça sera présent sur le site. D'autres composantes du site pourront participer à la dynamique globale du site. Je pense au cinéma, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec une salle d'auditorium qui sera destinée toute la journée en dehors des heures de programmation. Et enfin aussi une vaste salle de réception. Vous avez donc, vous voyez, la chapelle des climats, et la chapelle, elle s'arrête avec le toit grisâtre, et derrière, il y a une partie, et ça sera également une salle, dans l'ancienne salle des malades, bien sûr complètement rénovée, ça sera une vaste salle de réception de l'hôtel, qui pourra organiser donc des repas, des banquets pour 500 convives, et ça, c'est vrai que ça nous manquait dans un caractère patrimonial à Dijon. Je vous parlais tout à l'heure du COS. Donc le COS, Comité d'orientation stratégique, vous voyez, il y a des gens de tout horizon. Et ça, c'est important. Parce que la cité, c'est un concept original, consistant à l'assemblage de plusieurs fonctions qui doivent tous concourir à la valorisation du repas gastronomique des Français et des climats du vignoble de Bourgogne. Donc elle se définit comme une cité au sens plein du terme, avec donc un lieu de vie, un centre attractif pour les touristes. Nous espérons sur le site 1 million de personnes sur le site, 250 000 dans la partie culturelle, 250 000 dans la partie commerce et 500 000 dans la partie cinéma. Un lieu de formation, de recherche et d'innovation, un lieu de partage et de convivialité, un lieu destiné à valoriser une culture du produit et des métiers, ça c'est important, une culture du goût, notamment des destinations des scolaires, une culture de la convivialité à table et des formes artistiques associées à la gastronomie et au vin. Et donc, pour garantir l'identité de la cité comme un tout cohérent et complémentaire aux yeux des visiteurs, compte tenu de la diversité des composantes que je vous ai décrites, et pour éviter que ce concept ne s'émousse, la cité est dotée d'une gouvernance commune, d'un corpus de règles qui s'impose tant aux investisseurs et bien sûr aux futurs exploitants du site. Elle s'est donc dotée d'une instance scientifique à travers le COS, installée en septembre 2017, 29 personnalités choisies pour leur expertise dans le domaine gastronomique, viticole, leur passion surtout, ça c'est important, toutes disciplines confondues. C'est présidé par Jocelyne Perrard, présidente de la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin, et Eric Prat, chef 3 étoiles, donc la Meloise HNI. Cette instance veille, et ça c'est primordial, au respect des engagements culturels et scientifiques pris par la ville de Dijon vis-à-vis de la mission française du patrimoine des cultures alimentaires, et à travers elle vis-à-vis de l'État. Elle est naturellement engagée dans la validation des projets d'exposition permanente et temporaire. Rien ne se fait sans la validation du COS, qui dote la cité d'un outil imposant des principes déontologiques communs, la promotion du patrimoine gastronomique et viticole dans le respect du développement, la promotion du patrimoine dans les solutions durables et à l'ensemble des acteurs du site. Je voulais revenir sur quelques noms. Vous avez aussi... Pierre Arditi, vous le connaissez. Vous avez Jean-François Kahn, qui est un passionné, vraiment. Il vient à tous les COS, il vient à toutes les réunions. Le journaliste créateur de Marianne et l'événement du jeudi, vous le connaissez certainement. Nous avons des universitaires. Nous avons le président de l'Université de Bourgogne. Nous avons le responsable des cassissiers, la dame qui tient l'entreprise des pains d'épices de Dijon. Vous avez la moutarderie Fallot également. Vous avez plusieurs MOF, donc Eric Gottelmann. Je vous ai dit tout à l'heure Christian Vanier du BIVB, Jean-Robert Pitt, bien sûr, le président de la FPCA. Enfin, vraiment, ce sont des gens passionnés qui viennent à chaque fois, qui travaillent beaucoup aussi sur le net avec nous et qui travaillent avec Zoé, avec nos responsables, sur la partie culturelle et le respect des engagements vis-à-vis de la FPCA. La Cité internationale de la gastronomie et du vin, pour terminer, est un super outil de promotion de nos territoires, de nos savoir-faire, de nos produits. C'est un outil qui va faire gagner nos territoires, qui doit faire gagner tous nos territoires. Au sein du réseau des cités, tout à l'heure, je vous disais, on abordait l'avenir avec... on disait, oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Nous sommes quatre, nous ne sommes pas tout seuls. Et finalement, on a compris que le réseau, c'est encore mieux. C'est vraiment... si on aborde cela avec un véritable esprit gagnant-gagnant. Et beaucoup de tour opérateurs, tout à l'heure, j'entendais l'UNESCO au niveau du tourisme, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tour opérateurs qui commencent à venir nous voir pour dire, oh là là, vous avez des sites UNESCO, là, il faut venir voir, il faut qu'on vienne. Et notamment les Japonais, les Chinois, ça n'arrête pas, ils viennent pour se renseigner pour l'avenir. Et ça, c'est important. S'ils viennent à Paris, ils viendront à Dijon, dans le cadre du réseau des cités. Et puis, comme je dis tout à l'heure, après, ils passeront jusqu'à Lyon. Il faut qu'ils s'arrêtent à Beaune, il faut qu'ils s'arrêtent avant à Chablis, peut-être, à Mâcon. Enfin, il y a plein de choses à faire. Plus ils seront nombreux à Dijon, plus ils seront nombreux sur le territoire. Vous savez, il y a beaucoup de maires autour de Dijon, je pense aux grottes de Bèze, je pense à Saulieu avec Madame Loiseau, qui voudraient aussi qu'on fasse de la publicité sur leur territoire, de leur territoire sur notre cité. Et on le fera. Le but, c'est vraiment un produit qui doit attirer pour après renvoyer les gens vers les sites touristiques. Et ça, c'est important. Et c'est dans ce même état d'esprit, j'en suis sûr, que nous animerons avec mes collègues la Cité internationale gastronomie, en rapport bien sûr avec les trois cités des vins et des climats de Bourgogne. Je vous remercie.
Merci, monsieur l'adjoint au maire. On va peut-être avoir une question. Je vais vous en poser une petite question sur. Mais vous l'avez évoqué à deux ou trois reprises. Je ne sais pas si vous pouvez le divulguer. En termes de muséographie, de scénographie, d'expérience de visite, comment ça va se dérouler? Je prends deux exemples caricaturaux. Des fois, il y a des visites qui sont très. Avec beaucoup de contenu sans animation, et puis toutes les animations se passent en option ou sont en option. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, où vous en êtes exactement? Et dans ce parcours, comment se retrouve la partie dégustation? Vous avez parlé de l'école des vins. Est-ce que vous avez déjà des éléments? Je sais que tout est en cours de constitution, en pleine élaboration, sur cette expérience de visite.
C'est en cours de réflexion. Ce qu'il faut surtout, je vois Lyon. Lyon a ouvert il y a un mois. Ils ont déjà 12 000 visiteurs en un mois. Il y a un côté très muséal, c'est 12 euros la visite. Puis après, si vous voulez déguster, c'est encore 12 euros. Donc c'est vrai que ça peut faire cher. Donc on va travailler aussi, mais après il y a des budgets, bien sûr, et on va travailler là-dessus avec Zoé, avec le COS. On travaille beaucoup à réfléchir sur comment faire pour ne pas aussi rebuter les gens. Donc ça, c'est important. Donc il y aura tout ce qui est Ferrandi, ça sera bien sûr payant, ça, ça ne sera rien à voir. Nous, on visitera, il y aura un tarif. Zoé, je ne sais pas si on sait le tarif. Pas encore, ce n'est pas fixé de manière précise, mais en tout cas, ça tournera bien sûr dans les 10-12 euros. Après, la dégustation du vin, vous allez à la Cité des Vins de Bordeaux, ça se passe comme ça, hein, vous payez en plus pour boire. Hein. Donc, je pense qu'il y aura aussi un tarif supplémentaire pour ça. On essaiera d'être le plus bas possible, mais il y aura certainement une participation. Après, quand je vois, je parlais tout à l'heure dans le hall d'entrée, ce piano avec un chef qui pourra parler et expliquer avec micro et puis écran géant derrière, je pense qu'il faudra arriver à ce que les gens puissent, dans leur tarif, puissent manger et déguster ce qu'ils ont vu faire. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est en réflexion pour essayer de minimiser au maximum le coût.
Non, mais c'est un vrai sujet. On l'a traité hier soir en aparté avec la Cité du vin de Bordeaux. C'est toujours un sujet, voilà, l'expérience de visite, le prix qui est en face, l'adéquation avec les animations, etc. Merci, monsieur l'adjoint au maire. Si, peut-être une question, s'il y a une question.
Juste une question pour comprendre, parce que ça a l'air très, très, très ambitieux. Combien vous envisagez accueillir de visiteurs? C'est configuré pour accueillir combien de personnes par an? Et combien vous imaginez de personnel pour faire tourner votre équipement?
Au niveau, nous avons tablé, on s'est mis bas, on a dit à peu près 180 000 à 200 000 pour commencer. Le musée des Beaux-Arts de Dijon qui vient de réouvrir, par exemple, on a fait 250 000 en 4 mois. Donc là, on espère. Par contre, c'était gratuit, c'est gratuit. On ne peut pas comparer parce que c'est gratuit. Mais nous, on table sur une fourchette basse de 180 000. En termes de personnes pour faire vivre la cité, Zoé le sait peut-être. En tout cas, c'est son domaine d'activité.
Alors, je ne pourrais pas vous donner des chiffres très précis. Aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré. Par contre, ce qui est évident, c'est que la cité, comme l'a expliqué M. Desseilles, c'est à la fois une association syndicale libre qui va regrouper les différentes composantes qui forment vraiment le cœur de la cité, donc à la fois le pôle culturel, les cinémas, les commerces, la formation, et le pôle culturel. Donc, si votre question portait sur le personnel du pôle culturel ou sur le personnel global. Donc le personnel du pôle culturel aujourd'hui, je vous dirais que j'irai à la louche 25 personnes, quelque chose de cet ordre-là, qui se répartissent à la fois au sein de l'association de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est propriétaire du pôle culturel, et au sein d'équipes d'exploitants, puisque l'exploitation logistique, technique, billetterie, etc. est confiée à un prestataire, qui est la société Espace, avec laquelle on travaille depuis l'origine sur ce projet-là. Donc voilà, il y a une répartition entre les deux, entre ces deux instances en termes de personnel.
Sur la totalité du site, vous voyez là, il y aura 150 à 160 personnes. Sur la partie culturelle, par exemple, à Lyon, ils doivent être 15. Donc nous, on sera, à mon avis, une vingtaine, parce que le site est plus grand. Mais une vingtaine, ça peut s'envisager. Mais ce n'est pas encore hyper précis à ce point-là. Après, on verra. Si on reçoit beaucoup de monde, on se développera, on aura encore plus de monde.
J'ai une autre question à ma gauche.
Bonjour, c'est Inchanas, encore pour le Musée de Bretagne. J'ai pas très bien compris dans le projet si on était du coup plutôt dans l'optique comme on a la cité du vin, donc avec un espace qui ne se veut pas muséal, donc essentiellement des ressources numériques et donc des expositions, j'allais dire, qui ne valorisent pas des collections, ou si dans le projet des expositions, vous envisagez également la valorisation du riche patrimoine, je pense notamment à la bibliothèque qui concerne des collections de menus très importantes à Dijon ou des autres musées qui ont des collections autour de l'anthropologie, de l'alimentation. Est-ce que vous allez les valoriser, que ce soit dans les espaces
permanents? Bien entendu, le fonds gourmand sera présent. On a le fonds gourmand, on ne va pas s'en priver. Je vois récemment, le chef de l'Élysée nous a ramené 1000 menus symboliques qui ont été délivrés à l'Élysée, on pourra aussi... Et on ne veut pas faire que ça. Je dirais, on ne veut pas avoir des salles où les gens... On ne veut pas un esprit musée. On veut aussi un esprit expérimentation. Bien sûr, on aura aussi le fonds gourmand qui sera présent sur place, mais sur une partie. On ne va pas inonder de tableaux ou quoi que ce soit. Vous avez le Musée des Beaux-Arts pour cela. C'est vraiment de l'innovation, c'est vraiment de l'expérimentation, du goût. Il ne faut pas tomber dans un système. Il faut donner envie aux gens de revenir.
Dernière petite intervention, courte si possible, ou question? Ah ben c'est Laure, voilà. Alors ce sera pour après.
Oui, une petite question, donc Monsieur Desailles, bonjour. Donc Laure Ménétrier, Musée de Beaune. J'ai visité ce week-end la cité gastronomique de Lyon. Avec une grande impatience pour visiter ce site. Donc une très belle réhabilitation de monuments historiques, un très beau centre commercial haut de gamme.
Attention, leur projet était différent. C'est
oui,
qu'eux,
oui,
ils avaient déjà un projet commercial avant.
Tout à fait.
Et ils ont intégré la cité gastronomie au chausse-pied dedans. Alors que nous, on part d'une structure vide. C'est
vous allez voir où je veux en venir. On va pouvoir préciser les choses. Voilà. Et donc, bien sûr, ce site donc de cité internationale de la gastronomie, avec donc une très belle valorisation des figures locales de chefs restaurateurs, Bocuse, la mère Brasier, un très bel espace, en effet, sur le lien avec la santé, gastronomie et santé, qui est d'ailleurs pour moi l'espace le plus réussi, avec de très beaux objets patrimoniaux, des outils d'expérimentation, des outils numériques, donc tout ça très, très bien pensé, très équilibré. Mais finalement, voilà les valeurs qui justifie que le repas gastronomique des Français soit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je ne les ai pas vraiment vus, je n'ai pas vraiment compris comment moi, en tant que visiteur, je pouvais m'approprier tout ça. Et donc, je voulais savoir pour Dijon.
Justement, l'avantage, c'est que nous ouvrons deux ans après, donc voilà, on va essayer
comment
de
vous envisagez cette appropriation par les visiteurs de ces valeurs du repas gastronomique des Français?
Bah déjà par l'origine de tous les produits que nous travaillerons. Je veux dire, quelqu'un comme Éric Prat ne martèle sans arrêt les circuits courts, travailler sur les produits de saison, travailler sur des recettes. Enfin voilà, tout ça sera fait. Et on espère vraiment que, expliquer aux gens comment faire ceci, l'accord Mévin, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même, nous, cette spécificité Mévin. Donc ça sera important d'expérimenter, de démontrer, de vraiment de s'approprier quelque chose de différent. C'est vrai que Lyon, ils vont retravailler... Régis Marcon l'a bien dit lors de l'inauguration mardi soir, ils ont énormément de retours par rapport à ça. Tout à l'heure, je disais, côté muséal, il y a des critiques qui sont assez récurrentes sur ce côté, voilà, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'expérience. Pour les petits, ça marche bien aussi, les petits, le côté...
Oui, le quiz pour les petits.
Voilà,
enfin,
ça,
en tout cas,
bien.
Quand des grands le font, les grands arrivent.
Mais
à
c'est vrai qu'il faut... Voilà, ils vont retravailler leur sujet, ils en ont besoin, ils le savent. Sinon, ça va poser problème à la série, ça va poser problème. Mais Régis Marcon a complètement entendu ça, et les retours vont dans ce sens-là. Et nous, on essaiera de ne pas tomber. On ne tombera pas dans ce piège, ça c'est sûr. Mais on n'aura pas le droit, parce que nous avons deux ans maintenant pour travailler là-dessus et se servir de cette expérience.
J'ai une question de la salle, mais je ne leur donne pas le micro, parce qu'ils m'ont fait comprendre. Vous voulez savoir le coût du projet? Alors, on sait que c'est un projet ambitieux.
Qui coûte au total 250 millions d'euros. Mais il faut comprendre que c'est un projet, la ville a transféré ce projet au groupe FH par un appel à manifestation d'intérêt. C'est d'ailleurs ce qui a valu ces trois recours et trois appels, tous perdus, recours injustifié, injustifiable, ils nous ont fait perdre beaucoup d'argent, de temps, et qui ont retardé les 1600 emplois induits derrière sur tout autour. 250 millions d'euros. Mais il faut savoir, donc, dans la partie... je ne sais pas si on le voit... voilà, la partie 7, c'est un écoquartier qui permet donc au groupe de... donc, ils ont porté le projet, ils ont fait un énorme projet, ils ont fait plus d'un million d'euros dans l'appel à manifestation d'intérêt, ils ont travaillé beaucoup, ils ont fait venir des experts, ils sont tournés sur des scénographes, ils ont beaucoup bossé pour présenter leur projet. La partie purement culturelle, c'est 35 à 40 millions d'euros. La ville de Dijon, nous, c'est vraiment un projet pratiquement privé. Sur cela, il faut savoir que la région a donné 5 millions d'euros. La ville de Dijon, c'est à peu près 3 millions d'euros. Le département, zéro. Ça, c'est dommage. Et voilà, c'est dommage. On n'a pas eu. Je crois que Beaune, vous avez eu 2,5 millions, mais nous, ils ne nous aiment pas, on a eu zéro. Mais donc, voilà. En tout cas, c'est pour nous important. C'est un projet privé. La ville aide un peu, la métropole aussi, dans tout ce qui est esplanade, etc. Mais c'est vraiment très peu par rapport à l'immensité du projet.
Monsieur Dessay, on vous remercie vivement. Merci pour cette intervention. Merci. Il y aura peut-être d'autres questions, mais on n'aura peut-être pas beaucoup de temps.